je vois l'avenir en rose, car j'attends l'os, oui j'attends l'os théoporose.
Bon, ben, je vais donner un peu le ton à l'entrevue qui s'en vient, parce que c'est un sujet sérieux, mais c'est aussi un sujet où je pense que les personnes qui le vivent ont besoin d'un petit sourire de temps à autre. Et je parle donc de ce bouquin qui s'appelle « Au bout de notre sang ». C'est intéressant, là. C'est un gars qui va faire l'entrevue sur ce sujet-là, qui est le sujet des femmes qui vieillissent et qui vivent le silence autour des menstruations, de la ménopause et du vieillissement. Et pour donc discuter de tout ça, je reçois les deux co-directrices du collectif Au bout de notre sang, Martine Delvaux, que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux, que j'aime beaucoup, et Esther Laforce. Allô, toutes les deux. Bienvenue à l'émission.
Merci.
Bonjour.
Bon, j'ai commencé dans l'humour. Est-ce que j'avais raison de le faire?
Ben oui, pourquoi pas.
Oui.
Hein? Oui. On n'est pas straight, là. On accepte ça.
Mais surtout que j'ai lu certaines des autrices m'ont tellement fait rire, je ne m'attendais pas à ça. C'est un livre qui est sérieux, mais il y a quand même de l'humour. Puis je trouve que ça aide à comprendre. Mais pourquoi c'est encore tabou de parler de la ménopause? On est quand même 40 ans là, après la création de cette chanson que vient d'entendre de Clémence Desrochers.
Ouais.
Martine.
Ben, c'est de moins en moins tabou, hein. Je pense
Ouais.
que là, au cours des dernières années, il y a eu pas mal de discours qui sont élaborés autour de ça, même des discours scientifiques, médicaux. On s'intéressait pas tant que ça à la ménopause jusqu'à assez récemment. Et moi, je suis assez convaincue qu'il y a toute une masse critique. C'est-à-dire qu'on arrive à un âge, on est toute une armée de femmes qui sont ménopausées en ce moment ou préménopausées. Et ben, on est dans l'espace public de différentes façons. Et
Ouais.
c'est peut-être une raison pour laquelle, là, tout d'un coup, c'est un peu moins tabou que ça l'était.
Je vais aller de votre côté, Esther. Vous êtes quand même une chercheuse, okay, et votre travail porte surtout sur la figure de la femme silencieuse. Alors, comment le passage du biologique au littéraire vous permet de transformer cette étape de vie-là?
Oui, ben ça me permet de la réfléchir. Pourquoi on a été tu sais, le tabou, dans le fond, je pense que c'est sur toute la vie des femmes en général qui pèse. Et oui, ce silence-là, ben, il revient, hein, dans certains textes, là, notamment celui de Pascal Cormier,
Oui.
qui vraiment nomme un peu la condition avec lesquelles on vit les femmes souvent. On est tue, on est remise au silence. Donc, oui, voilà.
Beaucoup
Ça
de
permet de...
le mansplaining, hein, qui arrive et qui, ben oui, je vais vous expliquer ce que vous ressentez. C'est un petit peu le malaise que je vais vous le dire, que je ressentais en voulant aborder ce sujet-là, mais en même temps, je me dis, il est à peu près temps que les hommes s'intéressent à ce que vivent les femmes aussi. Alors, je sais pas comment vous abordez ça, le fait qu'un gars vous interviewe sur un livre qui porte sur la ménopause.
Et moi, je ne me suis même pas posé la question,
Oh, good.
honnêtement. Ouais.
OK.
L'idée, c'est de mettre le livre en valeur puis de mettre ces voix-là en lumière. Donc, peu importe qui nous interviewe, ça n'a pas tant d'importance. Mais c'est vrai que dans tout ce qui concerne les femmes, ça concerne tout le monde. C'est pas la moitié de l'humanité que ça concerne, c'est que ça concerne tout le monde. Et c'est peut-être ça la lutte féministe, en
Ouais.
fait, depuis tout le temps, c'est d'essayer de crier de plus en plus fort, mais voyons comment ça se fait que vous n'êtes pas concernés par ça. Ça serait pas normal, à mon sens, bon, dans certains cas, la ménopause, c'est extrêmement souffrant, et que le corps médical masculin ne se soit pas intéressé à ça, que les époux, les chums, les fils, ils doivent se sentir concernés par ça. C'est vraiment une partie hyper importante de la vie d'une personne. En tout cas, qui a un appareil génital considéré féminin, là.
Il y a quand même toute une diversité de points de vue et on aborde tous les clichés. On les aborde de front. Ils existent, là, les bouffées de chaleur. Je pense même à Jennifer McAroney qui a fait une sortie publique récemment parce qu'on n'en pouvait plus subir la chaleur lors d'un événement. Et on en parle de front ouvertement. Vous espérez quoi qui se passe avec ça? Que les gars finissent par comprendre que c'est quoi de vivre ça?
Ben, je pense qu'il y a vraiment une demande d'être entendue. Puis aussi, tu sais, je pense que la ménopausée, on s'en est beaucoup moqué, puis en s'en moquant, on s'en peut-être on s'en débarrassait un peu. Je veux dire, c'est la disparition de la ménopausée dans le, tu sais, la disparition, en fait, l'ignorance que la ménopause a subi dans le fond dans le champ médical, c'est aussi un peu dans l'imaginaire que ça se passe où, tu sais, c'est comme une figure dont on se moque de ses bouffées de chaleur, on se moque de ses montées de lait, comme si c'était pas important, comme si c'était pas quelque chose qui avait un poids. Puis je pense que la figure de la ménopausée s'est peut-être cristallisée aussi dans pas grand-chose, dans quelques clichés justement. Puis je pense que le collectif vraiment vient faire sauter tous ces clichés-là. On va ailleurs, il y a une diversité de voix. Puis, tu sais, c'est ça. Je pense que plus on va parler de la ménopause, plus les femmes vont en parler, plus il y a une diversité de femmes qui vont en parler. Ben, on va l'entendre, puis c'est un peu ça qu'on réclame, là, d'être entendu
Ouais.
dans ce passage-là de la vie. Oui.
Au-delà de la caricature,
Oui.
parce que c'est facile de caricaturer, mais je pense qu'il y a une manière aussi de valider,
Oui.
de faire que des femmes, dans la grande diversité des expériences, hein, parce qu'il n'y a pas deux ménopausées qui vivent la ménopause de la même façon. Donc, il y a une validation, je pense, à travers ce collectif-là, parce qu'il y a une grande variété de voix, parce qu'il y a une grande variété de manières d'aborder la question. C'est pour rendre ces différentes expériences-là audibles. Lisible.
Moi, ce que j'en retire aussi, je pense à certains textes, comme celui de Penelope McQuaid, qui parle de la douleur qu'elle vit, parce que, bon, évidemment, ces changements-là viennent avec tout plein d'effets secondaires, et ça, c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas beaucoup.
Oui, absolument. Ça peut être extrêmement débilitant, cette
Oui.
période-là de la vie. Et dans cette grande variété de textes et de voix, il y a toutes sortes de dimensions psychosociales, proprement biologiques, dans le rapport au médical, dans le rapport aux proches. Toutes ces dimensions-là de l'expérience de la périménopause ou de la ménopause sont explorées. Mais oui, ça peut être extrêmement douloureux et c'est dévalué. En fait, elle n'est pas prise en compte tant que ça, cette douleur-là, cette souffrance-là. Quand une femme ménopausée ou préménopausée souffre de brouillard mental, je dis, moi, j'arrivais plus à travailler.
Ah
C'est
ouais.
gravissime, là. C'est mon cerveau et mon outil de travail principal, on pourrait dire, puis j'arrivais plus à travailler. Donc, c'est pas mineur dans l'expérience de vie. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ce collectif.
Comment avez-vous
Ouais, puis je
choisi?
pense
Oui, allez-y,
que. Vas-y.
Esther, oui,
Non,
allez-y.
mais je pense que nous-mêmes, comme femmes, quand on le vit, on a de la difficulté à dire, voilà, c'est ma ménopause, tu sais, l'ignorance qu'il y a eu dans le champ médical, c'est aussi nous qui, parfois, ne connaissons pas bien notre expérience, puis on a de la misère à dire c'est ça qui arrive et à réclamer justement les soins qu'il faut pour ça.
J'aimerais
Ouais, il y a une
revenir.
grille de lecture, hein, faut
Oui.
pouvoir lire ces symptômes-là.
Oui. Je trouve intéressant. Bon, je ne vais quand même pas m'en cacher. C'est une amie très, très, très chère à moi, Pascale Cormier. J'ai vraiment. Son texte m'a. C'était un coup de poing. Et
Ben pour
là,
nous aussi.
on peut le dire, Pascale est une femme trans et j'aime beaucoup comment elle raconte, comment tout à coup elle a découvert, ah, maintenant que je suis une femme, il faut que je me taise.
Ouais, mais nous, on a été bouleversés par son texte.
Oui.
Vraiment, moi, j'ai fondu en larmes, je l'ai fait lire à ma fille. J'ai dit, c'est incroyable, elle met le doigt sur l'essentiel. Vraiment, on est hyper choyés qu'elle nous ait donné ce texte-là à publier.
Ça a été difficile. Je lisais quelques textes. Je ne vais pas vous interrompre, mais j'essaie de me rappeler. Mais il y a un texte que j'ai lu, en fait, deux textes où on disait, j'avais vraiment pas le goût d'écrire là-dessus, mais je l'ai fait pareil parce que Martine me l'a demandé ou Esther me l'a demandé. Ça veut dire quoi, ça?
Ouais, ben c'est ça. Ben en fait, tu sais, il y a le fait que on en ait quand même beaucoup parlé dans les médias, peut-être dans les dernières années, mais mélangé au fait aussi qu'on connaisse pas tant la ménopause. Puis, fait que je sais pas. Je pense qu'il y avait peut-être un peu de ces choses-là qui travaillaient les autrices, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles l'ont fait quand même.
Ouais.
Puis elles l'ont fait parce qu'elles pensaient à d'autres personnes. On dit elles l'ont fait comme Virginia Bordelot. À la fin, elle dit je le fais pour ma fille. Il y a quelqu'un qui la pousse à le faire. Et puis Chinsella aussi le fait pour donner la voix à des femmes qu'on n'entend pas dans l'espace public. En fait, elle fait comme un peu mettre en sourdine l'expérience de la ménopause pour dire Mais pourquoi je parlerais de ça si ma voix, même comme femme asiatique, n'est pas entendue dans l'espace public? Donc, c'est intéressant, c'est comme il y a comme une responsabilité finalement dans cette prise de parole-là.
Parce qu'on
Il y a comme
déborde.
un...
Oui, allez-y, Martine, oui.
Non, il y a comme un sous-texte de disparition des
Oui,
femmes,
c'est
de
ça.
manière générale, hein. Fait que la
J'allais.
ménopause devient comme le prétexte pour explorer cette question de la disparition des femmes.
Parce que oui, il y a tout le problème de l'invisibilité des femmes en général. Est-ce qu'il empire avec les ménopauses, c'est ça?
Ben, c'est ce qu'on dit, hein, de
Ouais.
manière très, très courante, on entend ça, puis avec raison, c'est que il y a comme la disparition, on pourrait dire, puis là, je le caricature parce qu'on n'a pas le temps, là,
Oui,
mais
oui.
il y a une disparition des femmes, du marché des femmes, on pourrait dire, parce que, bon, l'indice de la beauté diminue, parce qu'on devient ridé, parce qu'on a moins d'énergie, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont liées au vieillissement. Mais l'âgisme dans notre société est une dimension qu'il faut prendre en considération. L'âgisme en général, pas juste en ce qui concerne les femmes. Si notre population est extrêmement vieillissante, ben, il va falloir s'attarder à cette question-là. Et d'un point de vue féminin, ben, la ménopause est comme le moment où, alors que les hommes qui vieillissent à la même période de la vie gagnent en autorité, gagnent en valeur sociale, on leur fait confiance, on considère que ce qu'ils ont à dire est important. Les femmes qui vieillissent à ce moment-là de la vie sont plutôt dévaluées alors qu'on est au top de notre performativité. On est au top de ce qu'on peut donner à la société. On est pourtant tassé. Et ça, c'est pas un mythe. C'est-à-dire, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, le collectif a aussi à voir avec ça.
Je vais me permettre de sortir un petit peu du livre parce que Martine, je veux vraiment te poser une question. Si tu me permets, je te tutoie. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Tu es très présente sur les réseaux sociaux, mais mon Dieu, qu'il y a des moments où tu dois te dire « je ne veux plus être là » parce que c'est pas facile pour une femme d'être publique.
Non, c'est sûr que ça, c'est un combat de tous les instants. Puis j'avoue que pour moi, c'est un peu moins difficile en ce moment que ça l'a déjà été avant, là.
Ouais.
Peut-être que ça a à voir avec l'âge, d'ailleurs. Peut-être que là, moi, j'ai gagné un peu en autorité. Mais c'est difficile. On le voit. Le coup de massue qui tombe sur les femmes et surtout sur les féministes dans l'espace public, il est constant. C'est vraiment une lutte de tous les jours.
Ouais, je me permettais cette question parce que je trouve ça important de le souligner, mais je vais quand même rappeler que Martine Delvaux et Esther Laforce, vous êtes toutes les deux la co-directrice de ce livre Au bout de notre sang, et c'est un livre qui ne s'adresse pas qu'aux femmes. Messieurs, allez lire ça, vous allez peut-être en apprendre sur vous-même. Moi, j'en ai appris sur moi-même, et pourtant, je ne suis pas une femme. Merci beaucoup toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin.
Merci à
Merci.
vous. Merci, à
Merci
la
à vous.
prochaine.
Au revoir.
Et je rappelle donc que le livre Au bout de notre sang est publié chez AMAC. Il est disponible en librairie sous la direction de Martine Delvaux et Esther Laforce. Dans la presse du 27 mars, un texte d'opinion sur le projet de loi 23 qui encadre l'hospitalisation forcée suscite donc de vives inquiétudes. L'avocat Patrick Martin-Ménard estime que le gouvernement commet une erreur de diagnostic en privilégiant la contrainte légale plutôt que l'accès réel aux soins. L'auteur affirme que faciliter l'évaluation psychiatrique sans consentement est une voie facile et dangereuse. Et en élargissant ces mesures d'exception, l'État risque de transformer la garde en établissant un simple outil de gestion de vulnérabilité à une faute de suivi préventif. Donc, on rend les choses plus faciles hein, de pouvoir mettre les gens en institution. Alors, pour les opposants, ce projet ne règle pas la crise. Il intervient par force uniquement lorsque le point de rupture est déjà atteint. Alors, le projet de loi 23 modifie la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. La Charte des droits et libertés de la personne garantit le droit à la liberté, à l'intégrité et au consentement aux soins. Projet de loi, donc, qui change les choses et qui, ne fait pas l'unanimité. J'ai le temps pour vous dire qu'après la pause, on va parler d'une pièce de théâtre, plutôt de marionnette aussi, croyez-vous, au fait, si je ne me trompe pas, parce que j'ai mes recherches devant moi. Et je peux vous parler aussi par la suite du livre « La somme de nous » de Denis Morin et Michel Lemieux, tout de suite après la pause.